Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les outsiders de la critique. J'ai nommé Nelly Capriélian, des Inrecuptibles, le respectable et un peu ombreux Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française, avec Frédéric Becbédé du Figaro Magazine et avec Arnaud Vivian, le multicarte Regard, mais aussi Transfuge, mais également la revue Charles qui est au bord de ressortir dans quelques semaines,
le 2 mai très exactement.
On parle ce soir de l'Outsider de Stephen King, du nouveau livre de Delphine de Vigan, mais aussi de celui de Véronique Ovaldé, du récit de Clémentine Autain, du Edmond de Dominique de Saint-Pern, et si on a le temps, de quelques mots de La guerre des pauvres d'Éric Vuillard. Dans le courrier de la semaine, Olivia Stepour remercie le masque d'avoir taillé un costard à Au-delà des frontières d'André Makin, livre poussif, indigeste, malsain, qui surfe sans panache sur les idérances du moment. Monsieur Makin, membre de notre éminente Académie française, devrait savoir que le terme croupe, qu'il utilise à plusieurs reprises pour nommer le fessier féminin, est une partie, ça je le sais, du corps des quadrupèdes, en particulier des équidés. L'Académie validerait-elle la formule écrivain croupion ? Nicole Lapalus, ça c'est à propos des deux sœurs de Fuenquinos, préconise plutôt de lire de Elena Ferrante Les jours de mon abandon, écriture extraordinaire sur le sujet de la rupture. Je ne pourrais plus rien lire de plus fort. À propos de La goûteuse d'Hitler, Arnaud, de Rossella Postorino, gros succès en librairie, Nicole Billet nous écrit « La première entrée que je viens de trouver dès que j'ai tapé « Hitler était-il ?» Ce n'est pas Hitler, comme tu l'as dit, était-il végétarien, mais Hitler était-il monotesticulaire ?» Avez-vous, cher Masque, un livre à nous recommander sur ce sujet ? Je ne crois pas qu'on en ait. Marion Cibla nous dit que Carnot devrait savoir que lorsqu'on cherche quelque chose sur Internet, il ne faut jamais cliquer sur les premiers liens. Souvent fantaisiste, bourré de fake news, il serait allé jusqu'à la page du guichet du savoir. Il aurait appris qu'Hitler ne devint végétarien que pour des raisons de santé personnelle.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Que s'il cessa de manger de la viande, ça n'en fait donc pas un végétarien, puisqu'un végétarien ne mange aucune chair animale. Or, le plat préféré d'Hitler, c'est formidable cette émission, était la truite au beurre.
Oui, je l'avais lu sur Internet.
Voilà. À propos de, c'est plus joli, de l'Évangile selon Yongcheng de Dai CJ, Camille Levert, qui nous écoute tous les lundis en podcast depuis Hong Kong, confirme cette coutume pékinoise qui consiste à accrocher aux plumes de la queue des pigeons, et non, comme on l'a dit, des pattes, un sifflet sculpté dans du bambou ou une petite courge. Lorsque j'étais étudiante en 1995 à Pékin, c'était très fréquent de les entendre et très poétique, ce que confirme François Picard, qui est prof à la Sorbonne, et témoigne du fait que les Chinois du Nord accrochent des sifflets aux pigeons. J'ai pu en entendre, et chez moi, ces sifflets étaient appelés « geling », ou encore Jean-François Lequi, qui a vécu quelques années à Pékin, qui a eu beaucoup l'occasion de les entendre. Et à Pékin, ajoute Michel, qui habite Rennes, j'ai le souvenir de longs moments passés à observer les circonvolutions aléatoires et répétitives de cette escadrille volatile et sifflotante. Merci à Monsieur Dai d'avoir réactivé en moi ces doux moments par son magnifique roman. Ne serait-ce pas, ça c'est un PS, parfois utile, on peut y penser, d'accrocher un sifflet identique à certaines de vos plumes. Lectrice également de Dai CJ, Evelyne Cervenny, nous signale qu'au parc d'attractions du Petit Prince en Alsace, il y a un spectacle de vol de pigeons avec des sifflets, et cela fait une petite musique agréable en même temps que le dresseur Musa Selick leur fait effectuer des vols très précis autour des spectateurs. Enfin, suite du feuilleton du Tortore, qui dure depuis 3 mois maintenant. Guillaume a été surpris qu'Arnaud ne connaisse pas le terme Tortore, lui qui est un grand connaisseur de Gainsbourg, lequel chante assez porté sur la Tortore, il se tape des tonnes de steak tartare.
Ah oui, mais ça, j'avais jamais... Parce qu'il y a quand même... Je connais très bien cette chanson qui est dans Rock Around the Bunker, qui est un album délicieux de Serge Gainsbourg sur la Seconde Guerre mondiale. Il fallait oser. Et donc, Tortore, là, c'est aussi la torture, quand même. C'est les nazis infligés...
Enfin là, non,
il se tape des tonnes de steak tartare. Oui, mais il y a un jeu de mots. C'est vraiment une chanson sur... Oui. Je crois que c'est celle qui s'appelle SS in Uruguay.
Et enfin, Claire-Marie Soria cite pour sa part une publicité de 1990 mettant en scène Pierre Perret qui vantait les mérites d'un bouillon cube laissant, selon le chanteur gastronome, un goût de moelleux dans la tortore. Voilà, rien à ajouter, non, sur Hitler, sur la tortore.
Ça suffira pour aujourd'hui.
Non, ça ira. Allez, on commence avec L'Outsider, déjà best-seller, le nouveau. Et gros roman, 570 pages. Tu as lu les 570 pages, Frédéric ?
Deux fois.
De Stephen King, traduit chez Albin Michel par Jean Hesch. Tout commence au mois de juillet, époque Trump, par la découverte d'un petit cadavre dans le parc de Flint City, qui est dans l'Oklahoma. Et c'est le corps de Frankie, un garçon de 11 ans, non seulement violé, mais aussi en partie dévoré. L'enquête de l'inspecteur Ralph Anderson mène à un homme respecté, respectable, qui est Terry Maitland, qui est prof d'anglais, coach de l'équipe de baseball. C'est d'ailleurs lui qui a entraîné le fils de l'inspecteur Anderson. Seulement voilà, si les preuves sont accablantes pour lui, ADN comprise, Maitland a un alibi et même une vidéo qui le montre à l'heure du crime dans une autre ville où il assistait, ça j'adore, à une conférence de Harlan Coben. Il est donc à la fois coupable et innocent et pendant ce temps-là, une détective privée mène son enquête de son côté. Polar horrifique qui ne serait pas signé Stephen King s'il n'y avait en prime donc une part de surnaturel ou de fantastique comme vous voulez. Oui donc Frédéric, tu l'as lu ?
Alors moi, je trouve que pour en parler, je suis obligé de raconter la deuxième partie. Alors c'est ça m'embête beaucoup. Je suis coincé, donc je ne vais rien dire du tout. Je passe la parole aux autres parce que pour moi, ça commence.
Ça c'est super fort.
T'as vu ça ?
Bravo. Ouais. Ça, je vais prendre exemple. Bravo. D'habitude, on suivait Ezil, mais il avait tout faux.
Wow. Et tu vas pas t'en tirer comme ça.
Là, franchement, ça devient vraiment intéressant à la page 193. Quand justement,
mais t'es sérieux, t'es pas
oui,
sérieux.
Non, quand ça bascule dans le fantastique, parce que sinon c'est une enquête un peu une histoire de procès avec un type qui est sans doute injustement accusé d'un crime horrible, puisqu'on a retrouvé un enfant de 11 ans égorgé avec les dents, c'est pas très cool. Voilà, donc il y a son ADN sur les lieux du crime. A priori, c'est réglé, mais il y a cette vidéo où il est dans une conférence d'Harlan Coben à 100 km de là. Et donc en fait, évidemment, ce qui est intéressant, bah, tant pis. Alors je dis pas grand chose. Ne vous inquiétez pas.
Non.
Mais ce qui est intéressant, la question que pose le livre, c'est est-ce que on peut être dans deux endroits à la fois ? Est-ce qu'il serait possible ?
Mélenchon peut.
Alors beaucoup de gens peuvent, c'est ça justement. Oui.
Mélenchon peut.
Et on est tous plusieurs personnes dans plusieurs endroits différents au même moment. C'est connu. Mais là, et donc il y a une créature, une légende mexicaine apparemment dont King s'inspire. Et c'est ça, à partir du moment où il y a ça, ça devient vraiment non plus un polar, mais un livre d'horreur, un livre qui est effrayant. Et puis en même temps, alors peut-être le défaut aujourd'hui de King, mais c'est peut-être dû à la traduction, je n'en sais rien, c'est que c'est du style très efficace, mais beaucoup d'explications qui parfois alourdissent. Parce qu'au fond, il ne veut pas choisir de basculer totalement dans le surnaturel, donc ça reste volontairement entre les deux et un peu trop réaliste. Et voilà, c'est peut-être ça qui est un peu laborieux.
Il faut penser au film que ça va donner, hein.
C'est une série, ça
une
y est.
Série,
c'est...
Oui,
sur
c'est
HBO, ouais. Il y a une série qui est prévue.
Donc il faut garder une part de réaliste. Nelly ?
Bah écoute, vraiment, là, je suis épatée par Frédéric qui a atteint la page 193. Moi, dès le début, enfin, j'ai lu 50 pages, mais c'était un pinceau. Mais pourtant, il y a des livres de Stephen King que j'aime bien.
À ce point-là
Ah oui, non, mais là, c'est ultra chiant. Enfin, c'est une série. Alors, je sais bien que c'est fait avec des rapports de police. Et même quand c'est pas des rapports de police, cela dit, on a l'impression que c'est des rapports de police. C'est une tartine de dialogue. Et je trouve que là, j'ai eu vraiment l'impression très désagréable que c'est fait pour être tourné par HBO. Enfin, que c'est fait, c'est du scénario prêt à l'emploi immédiat. immédiatement. Et je trouve en plus que Stephen King, qui a été complètement inventif, ça on le sait, qui a renouvelé le roman d'horreur, là je trouve il est dans tous les poncifs, alors et à la fois du thriller et à la fois de la série aujourd'hui. C'est-à-dire que et en roman et en série, il n'apporte rien. Parce que une série ou un roman qui aujourd'hui commence par un petit corps mutilé, atrocement, etc., généralement c'est toujours des gens vulnérables. Donc c'est toujours des femmes. Alors là, les séries de True Detective à, et j'en passe, enfin surtout par ça commence avec Twin Peaks, il me semble, de David Lynch, c'est toujours la femme qu'on retrouve violée, le silence des agneaux, etc., égorgée, malmenée, tout ça, ou le plus horrible, ce serait un enfant. Donc là, il y va carrément, c'est un enfant. Et j'ai l'impression d'avoir vu ce début, mais 150 fois, c'est pas très bien écrit. Et moi, j'ai l'impression qu'il devrait faire à un
gros,
moment
tu
donné.
Tu t'es arrêté au début.
Mais je me suis arrêté, je sais pas, vers la page 80.
Ah ouais. Et donc là, bah, tu parles d'un livre que tu n'as pas
mal.
Non, mais je parle mais d'un livre.
T'as raté la description de la créature.
Non, mais pour revenir, alors ensuite, je l'ai googlé.
Elle fait vraiment très peur.
Tu vois, hein. Et j'ai vu. Il y a une créature finalement, ou c'est le même homme
L'outsider. Il a une coupe en brosse, le visage couvert de bosse, des pailles à la place des yeux.
Des pailles à la place des yeux, ah ouais, ça c'est ultra flippant. Ça va être chouette, voir la série par HBO. Je comprends pourquoi Netflix l'a refusé. Je trouve que là vraiment, j'ai pas l'impression que ça apporte grand chose.
Michel, est-ce que tu as eu peur?
Oui, j'ai plutôt accroché, à vrai dire. Mais je suis un peu novice chez Stephen King.
Comment
donc
ça?
J'ai pas lu tous les livres, enfin si tu veux, donc je suis relativement nouveau.
C'est comme pour Harry Potter.
J'en avais lu d'autres, mais je suis loin d'afficher au compteur tous les romans. J'ai vu qu'il y en avait une vingtaine, une trentaine, c'est pas du tout mon cas. Donc je trouve ça plutôt étonnant de voir que le roman américain continue d'être hanté par la lettre et cravate, l'infamie, le thème de l'infamie, le type accusé injustement, l'entraîneur de l'équipe de baseball qui tout à coup devient aux yeux de tout un stade. Parce qu'il est arrêté publiquement, la scène est quand même assez incroyable. Et donc, d'un seul coup, il bascule du statut de personnage aimé de la ville, qui entraîne les enfants au sport, etc., en un personnage absolument diabolique et horrible. Et comment il va se dépêtrer de ça, et comment on va pouvoir surmonter l'infamie. Ce qui est un grand cauchemar du roman américain depuis Hawthorne, c'est comme ça. Alors, Stephen King, il est un peu un héritier de cette thématique, de cette hantise même, on dirait. Et je trouve qu'il s'en tire quand même d'une façon assez magistrale.
Est-ce que tu es allé jusqu'au bout?
Non, je ne suis pas allé jusqu'au bout.
M'embêter les uns les autres.
Je n'ai pas pu.
Ça veut dire quelque chose.
Bah oui, mais en même temps.
Non, mais on ne peut pas. Humainement, c'est impossible.
Comment ça?
Humainement, non, avec tous les autres livres qu'on a, etc., bon. On peut pas.
Arnaud, tu es allé jusqu'au bout?
Mais bien sûr.
Ah, enfin. Voilà un critique.
Fayot. J'ai eu l'impression de manger midi et soir pendant au moins 5 jours au McDo. Quoi. C'est-à-dire que la littérature alimentaire, oui, pourquoi pas, mais la littérature fast-food, non. Franchement, là, on sent un Stephen King, mais complètement amorti, qui n'a plus aucune idée, qui nous ressuscite, mais c'est vraiment une vieille légende mexicaine.
C'est un grand réalisme.
D'histoire qui rappelle Bruet en Artois, à peu près, quoi. C'est juste un truc que je trouvais assez marrant.
Mais tu as raison.
Ça me rappelait Bruet en Artois. Ah, t'es d'accord, Michel.
Mais attends, le mariage de Bruet en Artois
avec un poltergeist à la place des maoïstes. Voilà.
Je peux pas défendre le livre sans raconter la fin du livre.
Mais il y a quand même une phrase qui me... Quand j'ai... Voilà, ces derniers temps, il y a eu des jours un peu sombres. Il y a une phrase quand même sur laquelle je suis tombé. Je mettrai sans doute un jour en exergue d'un livre tellement je l'adore. C'est ils arrivent parce que donc il y a une créature, un poltergeist, etc. C'est le côté effectivement fantastique du livre. Et donc ils arrivent sur une scène et il y a plein d'une matière gluante, un peu grisâtre, vous voyez. Et donc les flics arrivent et disent. C'est pas du sperme, il y a une trop grande quantité. Et quand je vais pas très bien, je me dis cette phrase. Ce n'est pas du sperme, c'est en trop grande quantité. Et voilà, franchement, rien que pour ça, merci Stephen King.
C'est donc L'Outsider, et c'est chez Albin Michel. Les gratitudes, c'est après les loyautés, et avant, dit-on, les ambitions. Le nouveau roman de Delphine de Vigan chez La Thèse, roman pour l'essentiel dialoguée, qui tourne autour d'une femme âgée, qui répète que vieillir, c'est apprendre à perdre. Elle s'appelle Michèle Seld, alias Mishka. Elle était correctrice dans les journaux, donc les mots étaient sa grande affaire, et voici que les mots lui échappent. Alors elle fabrique sans le vouloir des calembours, elle dit « je bois un dé à moudre de whisky », elle parle du catalogue des trois cuisses. Bref, on a compris qu'elle est victime d'aphasie et elle est placée dans un EHPAD. Marie, sa jeune voisine, vient la voir tous les jours. Et Jérôme, qui n'anime pas le masque mais qui est orthophoniste, s'attache à cette vieille dame qui voudrait retrouver, avant de mourir, le couple de la Ferté-sous-Jouarre qui a sauvé pendant l'occupation la petite fille juive qu'elle était. Elle voudrait donc leur exprimer sa gratitude, gratitude qu'éprouve également Marie pour celle qui l'a accueillie lorsqu'elle allait mal. Bref, un roman croisé de gratitude. Vous, vous n'êtes pas très dans la reconnaissance, les uns les autres. Non, vous êtes plutôt dans l'air du temps, c'est-à-dire l'indifférence, l'inhumanité, l'égoïsme.
Moi, je voudrais dire merci à Jérôme Garcin d'avoir mis ce livre au programme.
Je ne t'ai pas encore donné la parole. Hein. Arnaud ?
Non, je la laisse à Frédéric.
C'est quoi votre numéro, là?
C'est vrai, il a commencé à
Je voudrais dire merci aux parents de Jérôme Garcin de lui avoir donné la vie. Merci à Nelly d'exister. Bon, les autres, non. Bon, alors...
C'est bien ce que je disais. Ça ne correspond pas à ce que vous êtes.
On assiste au triomphe, et l'heure est grave, je le dis gravement, on assiste au triomphe de la littérature doudou en France. Si on regarde le programme du masque... La littérature doudou, la littérature rassurante.
J'avais cru comprendre glou-glou.
Qui nous aide à nous endormir. Donc les titres du programme de ce soir, les gratitudes. Ensuite, personne n'a peur des gens qui sourient. Dites-lui que je l'aime.
Si, mais je connais des gens qui ont très peur.
Donc, voilà. Et vous avez oublié, Jérôme, les numéros 1 et 2 des ventes en France. J'ai dû rêver trop fort, de Michel Bussy. Et la cerise sur le gâteau. C'est le titre du livre, hein. La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valogne. Voilà. Il y a vraiment un immense succès en ce moment des livres les plus niais.
Tu pourrais me parler
aussi
de ce livre plutôt que de faire de la littérature.
Je crois à la phrase d'André Gide. On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. On est dans un EHPAD avec une vieille et une jeune qui s'entraident, qui se remercient mutuellement. Ça fait penser un peu à Anna Gavalda, qui est une des premières à avoir fait ça en France. Ensemble, c'est tout. C'était des gens. Voilà. Il fallait être ensemble parce que ça fait du bien, mais chez Gavalda, il y avait un peu plus d'ironie. Là, c'est tous ces dialogues gentils, ce jeu sur les à peu près, les personnages qui veulent remercier tous ceux qui les ont sauvés. Non, mais je crois
elle
vraiment...
ne t'a pas touché du tout, cette femme.
Je suis une mauvaise personne. Oui, j'ai un mauvais fond.
Mais tu es en train de prouver ce que je disais.
Non, j'ai commencé en disant merci, mais c'est vrai que je ne crois pas que la littérature serve à tisser des liens entre des gens paumés. Je crois qu'elle ne sert à rien. Je crois que la littérature ne sert à rien.
Bien, Michel ?
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec Frédéric, mais en même temps, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que je trouve très intéressant de voir comment... son nom m'échappe.
Delphine de Vigan. Tu n'es pas loin de l'EHPAD, là. Hein.
C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Et je trouve intéressant de voir comment cette fille arrive à surmonter l'énorme réprobation qui est sur elle depuis le précédent succès et depuis un bon moment, en fait. Et jusque-là, elle est arrivée à échapper aussi à l'infamie, qui est d'un autre ordre que celui qu'on évoquait avec Stephen King, mais il y a quelque chose comme ça. Et je trouve tout à fait intéressant de voir comment elle arrive à faire son chemin à travers cette réprobation tacite.
Pas du tout exact.
Mais parle-nous de ce livre quand même.
Par Le Monde, elle est défendue par les Inrecuptibles. Nelly a fait un très bel article sur elle.
Frédéric, je ne lis pas les journaux.
Non, elle n'est pas du tout l'objet de réprobation
unanime. Mais attention.
Au contraire,
on la compare à Houellebecq. Je la voyais à la télévision, quelqu'un lui disait « Vous êtes un peu l'anti-Houellebecq ». Je dis « Mais on tombe des nues quand même. »
On s'en fiche. Oui, mais tout ça, ça n'a aucun intérêt.
C'est pas faux.
Ça n'a aucun...
Ah bon, c'est pas faux.
Ben non, mais c'est pas dans le
sens où... Attends bien, mais non,
le personnage...
Si on en est là à comparer Delphine de Vigan à Michel Houellebecq, c'est que franchement, là, on commence à avoir un sérieux problème.
Mais non, la question n'est pas là. La question, effectivement, comme disait Frédéric, la question est de savoir si oui ou non on peut arriver à faire du roman avec des bons sentiments. Eh ben, la réponse est oui, en fait. Elle n'est pas non, elle est oui. Et simplement, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'intelligence des situations. Et le personnage de cette vieille dame, j'en vois toutes les semaines, je suis amené à,
Même tous les jours. Le...
Non, non, mais je sais, je vois très bien ce que c'est, cet univers de l'hospice d'aujourd'hui, qui où la télé marche à fond, et où personne.
Mais ça, elle le raconte pas du tout, Michel, par ailleurs. Tu comprends? Écoute, c'est que c'est ça le problème du livre. Là, tu es en train de faire un livre qui n'existe pas. Tu parles d'un livre qui n'existe pas. Il n'y a aucune description de l'EHPAD.
Je ne fais pas peser sur ce livre une culpabilité qu'il ne mérite pas.
Mais c'est ton problème. On fait poser la culpabilité.
J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais je dis simplement. C'est un peu facile de dire c'est la niaiserie contre la lucidité welbeckienne. Non, c'est un peu plus compliqué. Je suis désolé.
Nelly.
Non, moi c'est vrai, là où je suis d'accord avec Michel, c'est que elle est partie sur un truc Delphine de Vigan. Je suis pas sûre d'adhérer à 100%. Non. Et en même temps, ça me touche beaucoup parce qu'elle arrive enfin au moins elle se casse un peu la tête pour quelque chose. Alors moi je me suis pas du tout posé la question des bons sentiments ou pas. C'est vrai que c'est une vraie question. Je trouve qu'elle arrive à travailler juste sur les mots. En fait, moi, ce qui me gênait un peu, c'était la forme.
C'est bien quand on écrit, travailler sur les mots, par ailleurs.
Façon dialoguer.
C'est mieux que le coloriage et tout ça, parce que là, ça passe moins bien.
Non, mais Arnaud, s'il te plaît, arrête tes effets de manche, là. Laisse-moi dire quelque chose sur ce livre. Non, mais ça fait une heure que tu hurles. Je sais pas pourquoi tu es à ce point énervé sur ce livre, mais enfin, laisse-moi dire. Au moins, après, tu me contrediras si tu veux.
À propos, entre les critiques à propos d'un livre qui s'appelle Les Gratitudes, c'est quand même triste.
Non mais je trouve qu'elle ne travaille que là-dessus de façon très sèche, sans effet, sans lyrisme, sans grande description. En effet, il n'y a pas d'immense description de l'EHPAD. Je pense qu'elle va droit au but. Alors c'est un peu sec, c'est un peu déstabilisant parfois. Moi, je préfère que ce soit peut-être un peu plus welbeckien, justement, qu'on embrasse un monde. Là, c'est fait comme ça au trait. Et ce que j'aime, c'est qu'au fond, elle se pose des questions qui ne sont pas spectaculaires, qu'on voit assez peu dans la littérature. Absolument. Qui sont justement la question des loyautés et des gratitudes. Apparemment, le prochain, ce serait les ambitions, on verra, c'est pas sûr. Mais c'est des questions qu'on se pose tous les jours. C'est des questions auxquelles on se retrouve confrontés dans nos vies très très souvent, beaucoup plus souvent que, je sais pas, la fin de choses plus vastes. Dieu merci d'ailleurs, on n'en est pas encore là. Et je trouve qu'en s'attaquant à cette matière, je trouve qu'elle arrive quand même à faire quelque chose d'intéressant. Alors néanmoins, c'est vrai qu'il y a des passages qui deviennent un peu n'importe quoi, c'est vrai que je trouve qu'elle se répète, il y a des passages avec la directrice de l'EHPAD qui est un peu torsionnaire, qui reviennent un peu trop. Bon là, je pense qu'elle s'est fait plaisir, je trouve qu'il y a des passages très drôles, et je trouve que c'est, quand je disais Arnaud, c'est vraiment une espèce de façon de capter les mots de façon assez brute et sèche et pour les mettre en valeur. Ça va, je trouve, avec le sujet qui est cette femme qui perd la mémoire. Alors, on peut aussi trouver ça un peu facile, mais n'empêche qu'elle met les mots en avant pour dire que justement, le lien à l'autre, c'est ce qui nous sauve et dans nos vies privées et en collectif et en politique. Et je trouve ce livre, au fond, oui, assez politique.
Arnaud ?
Au moins, je suis d'accord avec une chose. Dans ce que vient de dire Nelly, c'est que c'est sec. Hein. C'est que c'est sec. Stephen King, j'avais l'impression d'avoir mangé au McDo. Là, vous avez l'impression que vous avez la carcasse du poulet, quoi. C'est la carcasse d'une histoire. C'est-à-dire, les personnages, il n'y en a que trois. L'EHPAD, donc, devient un non-lieu. La directrice, elle est très méchante. Et donc, là, franchement, on est au bord du ridicule sur un sujet vraiment important. C'est-à-dire, là, on est en train de nous prendre une journée, donc, de travail pour les personnes dépendantes. Non, c'est bien de ça dont on parle, c'est les gens qui sont dans des EHPAD. Dans les EHPAD, on commence à voir un peu le scandale des EHPAD, on commence à en parler, on voit ce que c'est. Là, c'est un travail de romancier, il y aurait un très beau livre à faire sur les EHPAD. Là, on n'a rien, on a une espèce de petite pièce de, mais je sais pas, un squelette d'une pièce de Beckett, quoi. Je veux dire, c'est quand même, mais c'est ridicule avec des jeux sur les mots. Mais moi, j'ai vu un film il y a deux mois, un film minable avec Lucchini qui avait un AVC, c'était exactement le même principe. Ça devient la petite musique ténue dans la presse bourgeoise. Là, il faut arrêter un petit peu, là. Ça devient un tout petit peu scandaleux.
Je trouve que tu parles un peu fort.
Je n'y vais pas assez fort.
On va se calmer. Quand tu défends Anna Gavalda en disant que c'était un grand.
Mais Anna Gavalda est une très bonne romancière.
Mais n'importe quoi,
s'il vous plaît.
Non, c'est une très mauvaise romancière. Elle n'a rien à dire en plus.
Non, mais s'il vous plaît. Juste signaler qu'il y avait un livre sur les.
Moi, je vais arrêter d'inscrire ce genre de livre parce que ça va.
Là,
je
termine un jour. Mais pourquoi on les inscrit ce genre de livre?
Mais pourquoi ils parlent sur les EHPAD? Je comprends pas.
Ça mérite pas de s'énerver.
Alors,
c'est simplement
c'était
le
donc les gratitudes sympa, voilà, de Delphine du Vigan, voilà. Et c'est chez Lattès.
Gilles, il faut lire la page d'après hein, quand il dit. Allez, on peut pas. Il y a une page d'après, il dit le contraire.
Alors justement, tu te moques
Frédéric, du titre de Véronique Ovaldé. D'ailleurs, j'ai cru que c'était au début un titre de Catherine Pancol. Personne n'a peur des gens qui sourient.
Oui. Mais je trouve ça idiot parce que c'est faux.
Oui, sauf que j'ai pas
moi,
fini.
Moi, j'ai très peur des gens qui
j'ai
sourient.
J'ai pas fini.
Ah oui, c'est terrible.
Mais il faut leur dire.
Mais calmez-vous. Calmez-vous.
Je sais pas ce qu'on a mangé ce soir, mais.
C'est chez Flammarion.
Un McDo de trop.
S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Pardon.
Gloria était prête depuis tellement longtemps que lorsqu'elle a pris sa décision, elle a eu besoin d'à peine une heure pour tout emporter. Et c'est comme ça que commence calmement ce roman dans le midi de la France. Gloria, elle passe prendre à l'école ses filles, Stella, qui est une ado, et Loulou, 6 ans, qu'elle élève seule. Elle les emmène en voiture dans la maison au cœur de la forêt alsacienne et près d'un lac où elle passait autrefois ses vacances. Et voilà, bah elle fuit sans oublier d'emporter un pistolet Beretta.
C'est pas Stephen King. Hein, mais...
Qui fuit-elle ou quoi? Eh bien, vous le saurez en lisant, si vous le voulez, ce roman qui plonge dans le passé compliqué de Gloria. Où on découvre notamment le personnage troupe de Samuel, qui est le père alcoolo des fillettes. Michel. Tu élèves le niveau de la critique. Là.
Oui.
Mais en même temps, ça veut tout dire.
Je viens de dire que Mélis. Cette phrase... Je passe prendre les enfants à l'école. Déjà, me met dans un état de.
Pourquoi?
Un état. Ben, je sais pas.
La littérature est pleine de bons sentiments.
J'ai l'impression qu'une main
littérature
me.
En passant prendre les enfants à l'école.
Là, on est dans le post-gavaldisme néo-welbeckien. C'est totalement terrifiant. Je ne peux pas aller au-delà de la page 36. C'est absolument impossible. Je suis obligé d'appeler un psy, une cellule psy de secours. Parce que je ne vois pas de quoi parle ce livre. Enfin, par ailleurs, un livre qui ne tient pas en place, il bouge tout le temps. On a l'impression qu'il est...
Tu l'as lu où?
J'ai essayé de le lire chez moi.
Et le livre bougeait.
Et le livre bougeait. C'était terrifiant. C'est une espèce d'immersion dans le social, dans ce qu'il peut avoir de plus épouvantable. Moi, je n'y comprends rien. Je ne dis pas. Elle a du tempérament, hein.
Arnaud.
Ça, elle sait faire, mais j'ai rien compris.
Ça m'a ramené très loin en arrière, dans les années 80 à peu près, parce que donc l'héroïne, quand elle était adolescente, elle écoutait les Buzzcocks dans son Walkman, et c'est un des meilleurs groupes du punk rock anglais, les Buzzcocks. Et donc ce personnage principal ne peut pas être totalement mauvais. Bon, évidemment, après, on a l'impression de lire une mauvaise version d'un Philippe Jean, en fait. C'est la Betty de 37 de le matin, à peu près, la Gloria avec son Beretta. Enfin, et ce qui est assez étrange, c'est d'arriver à faire une espèce d'histoire comme ça qui est complètement, à mon avis, datée. Franchement, on a l'impression de lire un vieux bouquin des années 80, tout hein, dans ce que ça raconte, c'est pas du tout actuel, avec une espèce effectivement de bougeotte, parce que c'est rock'n'roll, quoi. C'est une mère de famille rock'n'roll, voilà, et tout ça et ne fonctionne pas du tout en fait, voilà. Donc on s'ennuie terriblement. Mais voilà, et on voit bien l'intention. Je ne vois pas l'intention.
Frédéric.
Presque tous les romans de Véronique Ovaldé parlent d'une femme qui s'enfuit. Déjà, Vera Candida s'enfuyait de son île à l'âge de 15 ans. Vous voyez que j'ai bossé.
Que tu te souviennes de ça.
De bosser, voilà. J'ai bossé sur l'œuvre. Et le truc, c'est que c'est toujours des histoires de femmes qui s'enfuient. Mais Ovaldé, elle reste. Elle reste et elle publie, tous les ans, ouais. Tous les deux ans, un nouveau livre.
Non,
et,
mais pourquoi pas
Et visiblement, elle n'est pas prête de s'en aller. Et ça, c'était la première chose. Sinon, oui, je trouve que effectivement, moi, j'ai très peur. Donc, le titre, c'est « Personne n'a peur des gens qui sourient ». Moi, j'ai très peur des gens qui sourient. Et Stephen King a écrit sur ça, parce qu'il a fait un livre qui s'appelait « It, ça », sur un clown au sourire maléfique qui faisait très, très peur. Et moi, cette Gloria, elle me fout les chocottes, en fait, parce qu'elle prend ses deux filles, elle les emmène dans une forêt alsacienne.
Oui, elle est dingue. Elle est dingue.
C'est une parano, en fait.
Oui, comme Betty dans 37.2. Ouais.
Et alors, la conclusion du roman, c'est on est chez Philippe Delerme, c'est-à-dire qu'il faut adorer les petits détails, de la vie. C'est comme ça qu'on peut être heureux. Voilà. Tout ça pour ça, quoi.
Ouais. Nelly.
C'est terrible.
Alors, moi, je trouve que ça sointe la posture. C'est vraiment une espèce de je pose à justement, je ne sais pas si c'est Philippe Dian. Moi, ça m'a plutôt. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 50 fois, lu ça 50 fois. Ça m'a renvoyé un peu comme Arnaud, mais lui avec Bonheur. Lui, c'était aux années 80. Moi, c'était à mon enfance, dans les années 70, quand on voyait toute cette variété française. C'est-à-dire, c'était vraiment l'époque où les Français copiaient les Américains en faisant toujours moins bien. Pendant qu'ils avaient du rock, nous, on avait la variété. Ils avaient des séries télé géniales. Nous, on n'en avait pas, d'ailleurs. En fait, tout était comme ça. Et là, j'ai eu l'impression de, voilà, que c'était exactement la même chose. D'autant que ce roman, je l'ai lu, en fait, en mille fois mieux. En novembre, par Dave Eggers, les héros de la frontière chez Gallimard, qui est aussi une femme qui fout le camp, qui est absolument magnifique, qui part en Alaska. On passe d'un mobilhome à, enfin, elle est tout le temps sur la route. Et peu à peu se dessine la vie qu'elle a fui. Et là, c'est incarné. Il y a une écriture. Et on voit l'Amérique, et c'est politique, et c'est poétique, et tout ça. Là, quand même, le roman de Véronique Ovaldier, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, quoi. Je ne sais pas où elle veut en venir.
Personne n'a peur des gens qui sourient. Véronique Ovaldier, c'est chez Flammarion. Dites-lui que je l'aime, chez Grasset, le livre que consacre la députée insoumise Clémentine Autain à sa mère, la comédienne Dominique Lafin, morte en 1985. Elle avait 33 ans, elle avait joué avec Depardieu, Miu Miu, Yves Montand, tourné pour Claude Miller, Catherine Breillat, Marco Ferreri dans La femme qui pleure de Doyon et Garçon de Claude Sautet. Elle était féministe, mais elle posait dans Playboy. Elle avait épousé le chanteur Yves Autain, alias Yvan d'Autain. Pas facile, vous l'avez compris, d'être la fille de Dominique Lafin, qui était souvent ivre morte. Il y a même une scène où elle veut se jeter par la fenêtre. Et d'ailleurs, Clémentine Autain écrit que chez elle, la honte se disputait souterrainement avec l'angoisse. Mais pour autant, c'est pas un livre de règlement de compte. Ce serait même plutôt un chant d'amour différé. Alors moi, j'ai appris dans ce témoignage que le père de Dominique Lafin, André Lafin, donc le grand-père de Clémentine l'Insoumise, avait fondé le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Et que, c'est une page importante, que c'est grâce à son ami Arnaud Vivian qu'elle a pu retrouver un des amoureux de Dominique Lafin, c'est-à-dire le batteur de Téléphone, Richard Kolinka.
Oui, mais qui en réalité n'en est pas un, oui, c'est ça. Dit, oui. Effectivement.
C'est une manière de citer, et elle fait appel à toi pour trouver des
oui, moi, des et tous les membres de Téléphone, j'ai leur 06. Donc,
et il y a, dans le.
T'as leur téléphone, c'est ça.
Et il y a dans le livre, évidemment, la question qui se pose de savoir si. Il n'y a pas de réponse si elle s'est suicidée ou pas. À un moment, elle dit d'ailleurs, je me demande maintenant, écrit Clémentine Autain, si je ne t'ai pas suicidée. Et en fait, la question de la mort de Dominique Lafin reste quand même
beau,
un mystère, parce qu'évidemment, ouais. Bon, il y avait à côté de son lit des barbituriques et puis des éléments qui laissent à croire qu'elle aurait pu mettre fin à ses jours. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, on va garder l'ami Arnaud Vivian pour la fin. On va commencer avec Frédéric.
J'avais extrêmement peur de ce livre parce que, franchement, je m'attendais à tout de la part de Clémentine Autain.
Pourquoi tu l'aimes pas ?
C'est quelqu'un qui, parfois, dans ses interventions audiovisuelles, est proche du sectarisme, voire de la démagogie, quand même assez. Ça aurait pu donner un livre tout sauf sobre. Et je ne dis pas, je fais pas de jeu de mots sur l'ivresse de la mer. Là, c'est d'une sobriété, d'une sincérité, l'émotion est permanente. Et je crois, alors je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, pardon, mais pour moi, ça commence par une déclaration de guerre et de haine à sa mère.
Elle dit même qu'elle a... Mais c'est pas ce que j'appelle un livre de règlement de compte.
Non, mais enfin, c'est ce qui fait l'intérêt du bouquin, c'est que ça commence par dire, voilà, j'ai eu une mère absente qui était alcoolique, qui me laissait à l'âge de 8 ans en me disant « Bonne nuit chérie, bien sûr, je suis là ». Elle s'est seule dans l'appartement pour partir
Même les jours de neige, elle oubliait de lui mettre des chaussettes, elle partait quasiment pieds nus à l'école.
La scène, la puissance d'émotion vient vraiment du contraste entre quelqu'un qui aimerait aimer, mais qui n'arrive pas à aimer sa mère. La scène où elle va la chercher à la gare de Lyon et elle est tellement bourrée qu'elle tombe du train, elle tombe sur les rails, sous le train.
Terrible.
Et l'enfant qui a 10 ans est obligé de la porter avec des gens et de la mettre sur le chariot pour la trimballer jusqu'au taxi. Enfin, elle a honte en permanence et elle est presque soulagée quand sa mère est retrouvée morte. Donc c'est un livre absolument bouleversant et vraiment, j'ai très admiratif de ce livre et je trouve que voilà, c'est ça le.
Et puis elle a mené une vraie enquête autour de sa mère pour savoir évidemment. Vu les réalisateurs.
Il y a une enquête, elle voit plein de gens recommandés par Arnaud ou pas. Et c'est une enquête aussi à partir des archives qu'elle retrouve. Et la scène aussi où elle retrouve les archives est bouleversante. Vraiment, tout ce que je dis contre les bons sentiments, là, devrait être invalidé par ce livre parce qu'il n'y en a jamais.
Tu vois, tu n'es pas.
Parce qu'il n'y en a jamais. Parce que c'est.
Si.
Il y a de l'amour tout le temps, mais un amour qui n'a pas été dit, qui n'a pas été prouvé et qui n'a pas été vécu.
Nelly?
Oui, moi aussi j'ai aimé ce livre un peu contre toute attente parce que je vous avoue que les mères folles ou les mères détruites ou les mères souffrantes, là je commençais un peu à en avoir ras-le-bol. Je sais pas tous les citer.
Bah, d'ailleurs, on n'est pas loin de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine
voilà,
de Vigan.
Voilà, de Vigan, voilà. Il y a eu aussi un premier roman de Violaine Huissement, Fugitif par Skerin. Enfin, je sens qu'il y a une espèce de truc.
Boltanski,
voilà, sur sa mère. Enfin, il y a un truc sur la mère qui est défaillante, qui est démissionnaire et qui est folle. Bon. Et là, j'ai trouvé quelque chose de très sincère. Alors, c'est pas de la littérature, hein. C'est pas non plus un immense livre sur un parent. Je préfère en effet que ça soit Boltanski. Mais là, je trouve qu'elle arrive à quelque chose qui est extrêmement sincère et elle arrive en très peu de mots à restituer quand même cette femme et cette époque. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressée, c'est, même si c'est effleuré dans le livre, rien n'est didactique et rien n'est jamais lourd, c'est quand même ce portrait d'une féministe des années 70 qui a vraiment vécu le féminisme dans sa vie, qui l'a mis en pratique.
Un canard qui s'appelait Les Pétroleuses.
Oui, puis elle avait des amants, puis en effet, à un moment donné, elle pense même que Kolinka était son amant, et je crois qu'à un moment donné, Clémentine Autain écrit qu'elle se trompait, des fois, elle savait plus qui était qui, enfin, il y avait tellement d'amants qui défilaient, donc elle était vraiment très très libre, et j'aime croire qu'il y a toujours chez cette première vague de féministes quelque chose qui est un peu carbonisé, c'est-à-dire qu'elles ont peut-être pas assez été suivies par la société, et qu'elles l'ont payé d'une certaine façon. Alors le petit truc où là je suis quand même un peu mitigée, c'est-à-dire qu'à la fois on peut trouver ça très élégant et à la fois être un peu sur sa faim. Moi je m'attendais à un peu plus d'explications sur son enfance. Il y a un passage sur la mère qui est très beau, sur la grand-mère donc de Clémentine Autain qui est aussi chaleureuse et généreuse qu'une porte de prison. Enfin c'est un peu angoissant mais qui est là quand même là. Voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur certains ressorts de la vie de sa
Michel.
Mère.
Michel.
Très juste, c'est un livre très juste. Qui m'a touché, et à mon grand étonnement, d'une certaine manière, comme disait tout à l'heure Frédéric, c'est vrai qu'il y a une froideur à la télévision qui m'a souvent un peu repoussé, enfin, qui ne donne pas envie. Et là, il y a une très grande justesse, quoi, vraiment quelque chose de très. Qui touche juste et qui, voilà, force, la lecture ne peut qu'en être bien reçue. Quoi, c'est.
L'ami Arnaud?
Cette amitié fait que je ne peux pas en dire grand-chose, à part que Clémentine Autain, à mon avis, a employé deux fois le mot « apposé » dans son texte de manière fautive, ce que je trouve un peu regrettable, une petite correction a été bienvenue, mais il y a quelque chose dans ce livre qu'on comprend tout de suite, c'est que sa mère est morte quand elle avait 12 ans, et elle a clos le dossier. Et en fait, c'est sous, parce que maintenant elle-même est devenue mère, et c'est sous l'influence de ses propres filles qu'elle va à la cave, parce qu'elle a tout conservé dans la cave. Alors évidemment, vous voyez bien la dimension psychanalytique, le dossier, elle l'a. Et quand effectivement, elle m'a dit qu'elle allait écrire un livre sur sa mère, pourquoi je lui ai donné le numéro de téléphone du batteur de téléphone, c'est tout simplement parce que elle voulait rencontrer les gens. Et je trouve par exemple que la rencontre avec Doyon, qui a été donc l'amant de sa mère, de Mick Laffin, qui a fait un film avec elle, ils se sont séparés pendant le film, on imagine, là, parce que quand on connaît le cinéma de Doyon, voilà, comment il lui raconte. Et il y a cette histoire avec Laurent Perrin, le grand cinéaste qui est prématurément disparu, qui avait fait un documentaire amoureux sur ses mères. Et Lise Moon aussi, qui vient la voir, Clémentine Autain, qui lui dit, j'étais adolescent, j'étais amoureux de ta mère, j'avais son poster dans ma chambre, et elle ne veut pas en parler. Chez elle, c'est totalement clos.
Oui,
et là, elle décide. Et je trouve que ce livre, pourquoi il est beau finalement, c'est qu'il porte en lui-même sa nécessité d'exister. C'est qu'elle veut effectivement rouvrir une fois pour toutes le dossier de sa mère, et elle le fait, à mon avis, impeccablement.
Eh bien, c'est donc le livre de Clémentine Autain, Dites-lui que je l'aime, chez Grasset, sur sa mère, Dominique Laffin. On va aller un peu vite, hein. C'est encore un gros livre. Edmond, chez Stock, le premier volume de la bio romancée que consacre Dominique de Saint-Pern à Edmond Charleroux.
disparu en 2016, elle avait 95 ans, un livre qui ne couvre que les années 38-44. En 38, elle a 18 ans, elle est la fille de l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Elle serait même devenue duchesse de Sermoneta si son fiancé italien n'avait pas été tué en 40 sur le front albanais. La même année, elle échappe à la mort, Edmond Charleroux, dans l'hôpital militaire de Bras-sur-Meuse où elle servait comme infirmière ambulancière de la Croix-Rouge. Et puis on la verra à la fin du volume, en 44, être engagée par Delattre, qui fera d'elle l'assistante sociale de la 5e DB. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, évidemment, au-delà du portrait d'Edmond Charleroux et de sa sœur, Cyprienne, qui était la maîtresse du gendre de Mussolini, c'est à quel point on entend parfois des choses d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la violence, la haine des politiques italiens, en l'occurrence de Mussolini pour la France, rappelle des choses. Le frère d'Edmond Charleroux, Jean, homosexuel, qui rejoint l'armée de Gaulle en Afrique du Nord, va finir prêtre au Vatican. Il y a des choses quand même qui résonnent parfois avec l'actualité. Je vous demande simplement, malheureusement, d'être un peu rapide. Arnaud ?
J'ai adoré, je m'y attendais pas. C'est un biopic, hein, c'est ce qu'on appellerait au cinéma un biopic. Il y a une écriture qui est à la fois entre le journalisme et le roman, hein. C'est une biographie romancée, c'est un genre un peu hybride. En général, je n'aime pas ça, j'aime bien un petit peu qu'on choisisse son camp entre le roman ou bien la biographie journalistique. Là, effectivement, il y a un entre-deux et qui parfois... Franchement, il y a un côté Sissi impératrice qui finalement finit à la deuxième DB. Et donc, c'est très cinématographique la manière dont c'est raconté.
Ça n'est que le début parce que la suite avec la rédactrice en chef de Vogue qui va devenir la femme de Gaston Defer.
Moi j'attends Gaston Defer quand même parce
un grand moment.
Et après le Goncourt parce que
après l'Académie Goncourt.
Toutes les histoires du Goncourt. Mais là, ce début de vie que j'ignorais totalement est absolument passionnant, romanesque et en plus effectivement. On voit quelque chose d'historique, c'est-à-dire comment une famille de l'aristocratie, pour aller vite, de diplomates, finalement se trompe au début et du côté de Pétain, en tout cas essaye d'assumer cette idée.
Le père va rester quelques mois en poste.
Voilà.
Il va démissionner.
C'est sa haine pour Laval qui va le faire partir.
Et c'est quand même un moment de retournement historique. Absolument. D'une famille qui décide de prendre le camp gaulliste. Voilà.
Michel ?
Livre splendide et qui montre d'ailleurs d'une façon absolument merveilleuse que quand une biographie est réussie, elle devient aussitôt un roman. Ce livre marche comme un roman, tourne comme un roman.
Mais t'as des scènes de roman quand à la fin les chemises noires sont envoyées d'Italie pour occuper l'ambassade d'Italie en Belgique à Bruxelles où la sœur se trouve. C'est quelque chose d'incroyable.
Oui, absolument. Donc moi je trouve que c'est le meilleur livre de la soirée là, pour moi. C'est vraiment.
Nelly.
Alors c'est très 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 romanesque. C'est vrai qu'il y a un côté Sissi impératrice qui reste un peu Sissi impératrice quand même. Moi j'adore. Enfin moi je peux lire ça. Voilà, je le dévore. Alors ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'elle est consacrée un volume entier à la guerre. Mmh. D'abord on apprend plein de choses. Il y a des scoops. Elle a eu accès à des archives.
Il y a des photos. Il y a plein de petites photos.
Il y a plein de photos. Elle raconte aussi la vie de la sœur, en effet, d'Edmond. Elle dévoile des choses qu'Edmond Charleroux cachait en fait. Cyprienne, la vie sexuelle très libre d'Edmond,
ça n'est que le début.
Si proche de la guerre, ça n'est que le début. Apparemment c'était une croqueuse d'homme. C'est quelqu'un qui très jeune côtoie la guerre et qui très jeune perd l'homme de sa vie, le prince, je ne sais plus comment était son prénom,
Camillo Caetani.
Et moi, ça m'a vraiment touché tout un volume sur la guerre, parce que je me rappelle avoir interviewé Edmond Charleroux. J'ai passé 2 heures chez elle à l'interviewer en 2009 ou 2010, et j'étais très étonnée. Je vais l'interviewer sur toute sa vie, donc en 2 heures. Elle n'a parlé quasiment que de la guerre, de la résistance, des juifs qu'elle avait sauvés, des gens qu'elle a vus morts, et elle revenait sans arrêt à ça, avec les larmes aux yeux. J'ai vraiment compris que c'était quelque chose qui était central. Je sais pas quel âge elle avait à l'époque, elle était déjà très âgée, et qu'en se remémorant sa vie, c'était ça qui était très important dans sa vie.
Frédéric.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'avais adoré le livre de Dominique de Saint-Perne sur Dorothy Parker. C'est un livre culte pour moi, bref, qui m'a fait connaître Dorothy Parker il y a 25 ans, et vraiment pour ça, je la remercie infiniment. Là, peut-être que on pourrait dire une chose simplement pour apporter un petit bémol, c'est que Edmond Charleroux, qui lit Edmond Charleroux aujourd'hui, c'est donc effectivement un très grand personnage de roman.
Oui.
C'est peut-être pas un aussi bon écrivain que Dorothy Parker ou que Karen Blixen.
Oubliez pas l'herbe est un grand livre.
Alors, je ne l'ai pas lu.
Ben voilà.
Mais je repose la question. Qui lit Edmond Charleroux en 2019?
La question n'est pas là. Est-ce que c'est la matière d'un très beau roman?
C'est un personnage de roman, un
personnage de roman incroyable. Mais
d'ailleurs, parce que tu soulèves la question, il faut engager les gens à la lire. Parce qu'on remplit régulière sur Chanel, qui est un des meilleurs livres écrits sur Chanel.
Et alors, ces deux volumes plein de portraits
avec celui de Morand,
d'Isabelle Eberhardt, sont passionnants.
Tu vois, je ne les ai pas lus non plus.
Et l'autre chose, c'est que on l'a croisé un petit peu chez Drouan, Edmond Charleroux. C'était une dame austère avec un tailleur Chanel.
C'est pas la question, hein.
Non, mais d'un chic, insensé,
avec son chignon, avec ses lunettes, etc. Oui. Non, mais c'est assez incroyable de lire le livre. Et quand tu lis le livre, tu te dis, mais quel dommage de ne pas lui avoir parlé davantage.
Non, mais Elle s'est toujours, parce que je l'ai bien connue aussi, toujours refusée aux mémoires. Elle n'a pas voulu raconter ses souvenirs. C'est
oui,
aussi
absolument.
Pour ça.
Et jusqu'au bout, même, je lui avais demandé, elle ne voulait pas.
Voilà que des écrivaines comme Dominique de Saint-Perne sont bien placées pour raconter à sa place sa vie incroyable. Edmond, vraiment, moi, je vous le conseille aussi, c'est chez Stock. Et c'est signé Dominique de Saint-Perne. Une poignée de minutes, bon, c'était un petit livre de 60 pages, La guerre des pauvres d'Éric Vuillard chez Actes Sud, qui a été boosté, si j'ose dire, par la révolte des Gilets jaunes, évidemment, dont le personnage central, puisque ça se passe en 1524, est un théologien protestant qui s'appelle Thomas Munzer, qui est en colère, qui veut la peau des puissants, qui a été décapité en 1525, mais qui devient, ce petit livre devient une sorte de phénomène de librairie, évidemment, tout à fait incroyable. Quelques mots, est-ce qu'il faut le lire, Arnaud ?
Oui, on pense tout de suite à la phrase du milliardaire américain Warren Buffett, qui disait « Il y a une guerre entre les riches et les pauvres, et les riches sont en train de la gagner », disait-il. On est exactement dans cette situation. La guerre des pauvres dont il est question ici, c'est pas du tout les gilets jaunes. Mais il n'empêche que, moi qui ne suis pas, j'ai un peu du mal avec Éric Vuillard, d'habitude, comme écrivain, j'ai toujours l'impression d'avoir affaire à un...
Prix Goncourt, je vous le rappelle, pour l'ordre du jour.
Oui.
C'était en 2017.
Je préfère nettement ce livre-là à l'ordre du jour, par exemple. Et je pense qu'il y a un côté un peu Michon, pas très fleuri chez Éric Vuillard, si on peut dire. Mais là, quand même, les dernières lignes, le martyr est un piège pour ceux que l'on opprime. Seul est souhaitable la victoire. Je la raconterai. Je trouve ça assez classe.
Frédéric, un mot ?
Ça voudrait être du Pascal Quignard, et pour moi, ça ressemble plus à Jean Tellet. C'est-à-dire, c'est l'espèce de...
Oula,
de
c'est quelle horreur, ouais.
De pétage de plomb. Terrible, et d'ailleurs, de mise en scène de l'auteur aussi, puisqu'il dit, par exemple, on connaît mal Zwickau, c'est juste un bled parmi d'autres, ou je l'imagine au bord d'une rivière, ou encore je le vois, Thomas Munzer, qui se met en scène lui-même. Bon, cela dit, c'est vrai que c'est assez chic de comparer ça aux Gilets jaunes. En fait, ça n'a strictement rien à voir. Il y avait 4000 morts, là. Il y avait 4000 morts. Le seul point commun que je vois, c'est finalement que la révolte naît d'une nouvelle technologie. Là, dans le livre, c'est l'impression de la Bible en allemand, et donc les gens se mettent à vraiment lire la Bible et se révoltent. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux.
Nelly ?
Non, j'ai pas envie de déconseiller ce livre, chacun le lira, et si ça apporte quelque chose, ou si ça éclaire sur la situation des Gilets jaunes, pourquoi pas, chacun y trouvera son compte ou pas. Mais moi, en tout cas, je me suis vraiment très très ennuyée. Je trouve que c'est très surfait. Éric Vuillard, je trouve qu'il est en train de virer. J'avais aimé son livre sur Buffalo Bill, mais je trouve qu'il est en train d'en faire une espèce. Je trouve qu'il est en train d'en faire une espèce d'habitude, de grand roman historique. Et maintenant, il pose un peu au grand monsieur érudit et qu'il n'est peut-être pas.
J'en sais rien. Allez, en tout cas,
c'est pas un grand styliste parce que écrire des phrases comme le temps passa, je trouve ça scolaire.
Michel, un mot ?
C'est trop court. Cette histoire est compliquée.
Mais les gros livres, tu les lis pas.
Quoi ?
Les gros livres, tu les lis pas. C'est trop court. King, tu l'as pas lu.
Oh, t'exagères. J'ai lu 150 pages. Faut quand même pas déconner. Alors que les autres, ils ont lu moins.
150 pages, ça fait au moins 5 fois celui-là.
Non, mais c'est trop court. C'est trop court. C'est simpliste comme livre. Stefan Zweig a écrit des livres là-dessus qui sont beaucoup plus nuancés, beaucoup plus intéressants. Et là, on est vraiment dans un travail de short, tu vois ce que je veux dire. Enfin.
Short.
De réduction.
La guerre des pauvres.
De réduction.
La guerre des pauvres, c'est chez Vuillard.
C'est intéressant en même temps, hein, c'est intéressant, mais c'est trop court.
La guerre des pauvres d'Éric Vuillard, c'est chez Actes Sud. Le conseil de Michel.
Alors, je vous conseille un livre magnifique de Gianni Stuparich, Triestin, qui a fait la Première Guerre mondiale et qui raconte l'année 1915. C'est chez Verdier.
Que l'année 1915.
C'est un très bel écrivain, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le découvrir, parce qu'il a écrit d'autres livres qui sont tous traduits chez Verdier. C'est un écrivain admirable. Et là, il tient son journal de combattants, de jeunes conscrits combattants en 1915, donc en Italie. Et c'est vraiment c'est étonnant même de voir comment quelqu'un qui était dans un tel contexte de mort, de violence, de terreur, a pu rédiger de telles pages aussi superbes.
Le conseil de Nelly.
Alors moi, le nouveau livre de David Grann, hein, Sherlock Holmes et le diable, qui sort aux éditions du Sous-Sol. Et David Grann, je l'avais découvert. Alors, ce livre, c'est un recueil de textes, d'essais, d'enquêtes qu'il a faites, puisque David Grann est un grand reporter au New Yorker. Et là, il a réouvert à chaque fois des cas de crimes qui étaient résolus, notamment le crime d'un fan de Sherlock Holmes. Et là, ça nous plonge dans toutes les sociétés secrètes, ou pas secrètes d'ailleurs, qui sont des Holmesiens, qui se tirent dans les pattes les uns les autres. Et est-ce que ce crime aurait été fomenté par un des fans de Sherlock Holmes? Et tout est comme ça, très très bizarre. Et en fait, il parle beaucoup d'obsession, parce qu'il y a une autre histoire qui est sur, Jérôme, le poulpe géant, la traque du poulpe géant.
Je reviendrai en parler. C'est donc ça, David Grann aux éditions du Sous-Sol. Mon conseil, pas dupe, d'Yves Ravet, c'est chez Minuit, qui est un roman noir mais à l'écriture blanche, qui se déroule en Californie, qui souffre par une scène d'accident. Une femme est retrouvée morte au volant de sa voiture, au fond d'un ravin. Voilà, et au-dessus, il y a le mari de la victime, son amant et un flic. Voilà, la suite, vous allez la découvrir. J'aime beaucoup, en général, les polars de Ravet, et celui-là est particulièrement délectable. Frédéric.
Tout à fait d'accord. Moi, je conseille le nouveau roman de Lolita Peel, Elena et les joueuses, chez Stock.
On va en reparler au masque.
Je sais qu'on va en reparler, mais c'est ce qu'a vécu Lolita,
qui est un retour,
c'est quelque chose. Oui, ça fait 11 ans qu'elle n'avait pas publié. Ce qu'elle a vécu est assez unique, en fait. Je ne sais pas si c'est arrivé à grand monde, à part Françoise Sagan et elle, c'est-à-dire d'être une star à 17 ans, de vendre énormément d'exemplaires de son premier
roman.
Star,
t'exagères.
Bah, elle a 170 000 exemplaires vendus dans je ne sais pas combien de pays, etc. Et de se retrouver complètement fauchée, pauvre, quelques années plus tard. Sagan a mis 50 ans à faire ce chemin, Lolita 10. Et c'est assez violent ce qu'elle a vécu. Et donc, elle n'en parle pas, mais c'est l'histoire d'une ex-championne de tennis complètement déclassée, au chômage.
Son roman, d'ailleurs, avait été adapté à l'écran.
Et je crois que c'est intéressant que des gens, y compris des gens légers, parle de la pauvreté, de ce que c'est elle dit par exemple, l'absence de sérieux me classait parmi ces adorables petits riens qui ornent la société, je parlais gaiement, continuant à siffler comme un rossignol, quand en vérité l'inquiétude d'argent m'oppressait la poitrine et me battait aux tempes comme un amour malheureux.
Arnaud.
Encore une citation, Monsieur le Bourreau, de Dominique Noguez, aux éditions Albin Michel.
Disparu il y a la semaine dernière.
Voilà, donc il a disparu à la surprise générale de ses amis. Certes, il était à l'hôpital, mais on pensait pas du tout qu'il allait mourir. En fait, je pense qu'il a procédé comme David Bowie, c'est-à-dire que son livre est sorti, je pense qu'il savait très bien que c'était le dernier. C'est un livre magnifique, une promenade littéraire comme lui seul savait les faire. C'est un immense écrivain.
Et relisez de lui, parce que c'est en poche L'amour noir.
Oui, L'amour noir.
Très beau roman.
Et puis Lénine Dada, qui est un livre merveilleux, qui a toute une génération a été sous le choc de Lénine Dada. Voilà.
Et Ouverture des veines et autres distractions.
Ouais. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Nelly Capriel-Lyon, Michel Crépu, Frédéric Becbédé, ainsi qu'Arnaud Vivian pour cette émission, qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au théâtre de l'Alliance française, à la technique. Et je les remercie, il y avait Claire Levasseur, Julie Garraud, Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque aura lieu ici même, c'est-à-dire au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. Ça sera le jeudi 4 avril pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on vous parle de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.